Oui, devant les circonstances que nous traversons actuellement en tant qu'Église, je dirais que notre foi est mise à l'épreuve. Et je vous invite ce matin à méditer sur ce que Jésus dit au sujet de la foi. Nous allons nous concentrer sur l'Évangile selon Matthieu. Donc, prenez votre Bible, parce qu'il n'y aura pas de PowerPoint. Hein. Vous savez, dans l'Évangile selon Matthieu, le Seigneur parle deux fois d'une grande foi. Et quatre fois, il parle des gens de peu de foi, en s'adressant tout particulièrement à ses disciples. Donc, dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus est devant, observe si vous voulez, ou fait un constat devant la foi des personnes. Et d'un côté, il s'est émerveillé à deux reprises et fait l'éloge de la foi de deux personnes. Et à quatre reprises, il adresse des reproches. Dans les deux cas où il s'est émerveillé, vous savez qu'il s'agissait des païens, des non-juifs. À ce sujet, je vous invite à regarder Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. On va y revenir. Donc, ici, le premier, il s'agit du centenier, où il fait l'éloge de la foi de cette personne, en le qualifiant d'une grande foi. Et l'autre personne, où il fait l'éloge aussi, c'est une femme syrophénicienne. Et ça, nous pouvons le lire dans Matthieu 15, plus particulièrement le verset 28, qui nous intéresse. Donc, deux personnes à qui Jésus fait l'éloge de leur foi en leur disant qu'ils ont des grandes fois. Et quatre fois, il va s'adresser à ses disciples et en leur reprochant en disant « gens de peu de foi ». D'abord, premièrement, nous allons regarder Matthieu chapitre 8. On ne va pas lire tout le passage, mais je vous ai donné le contexte. 8, 5 à 13. On va le résumer. Mais surtout, Matthieu 8, verset 10. Donc, le premier éloge de Jésus envers un centenier, c'est un officier romain. Matthieu 8, verset 10, si vous avez votre Bible. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Quel est le contexte? Donc ici, Jésus constate chez le centurion qui est venu lui demander de guérir son serviteur une grande foi. Pourquoi Jésus trouve-t-il la foi de centenier si étonnante? Vous savez, dans le passage qui est ouvert sous vos yeux, le centenier venait de dire que pour lui, il n'était pas nécessaire que le maître vienne chez lui, maître c'est Jésus, pour guérir son serviteur malade. Cet officier estimait tout simplement qu'il suffisait que Jésus dise un mot pour que son serviteur retrouve la santé. Regardez verset 8 de Matthieu chapitre 8. Il dit ceci, l'officier. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il va donner une explication à l'officier au verset 9. Car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. En quoi cette parole est-elle une extraordinaire preuve de foi? Écoutez bien. Ici, dans cette parole, quand il dit, car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres aussi. Et il donne des ordres, et ces soldats exécutent à la lettre sans discussion. Donc ici, il est en train d'établir une analogie surprenante avec sa foi, en parlant de ce centenier. Il reconnaît que lui-même est sous les ordres de quelqu'un, et il peut donc revendiquer l'autorité de son supérieur pour les ordres qu'il va donner. Et alors, lorsqu'il demande à un soldat romain, sous ses ordres, de venir, d'aller ou de faire quelque chose, il ne parle pas comme un homme qui s'adresse à un autre homme quand il s'adresse à ses soldats, mais le centenier parle avec l'autorité de son supérieur. Et son supérieur s'appelait à l'époque le tribun. Et ce tribun qui est son supérieur, lui-même aussi, a son supérieur, qui est l'autorité de César. C'est l'autorité du puissant empire romain. Donc vous voyez, les chaînes d'autorité. Et donc si le centenier possède cette autorité, ce n'est pas parce qu'il serait aussi puissant que César. Ce n'est pas la question. Mais parce qu'il est un homme assujetti ou soumis à une autorité. Donc la chaîne de commandement faisait que lorsque le centenier parlait à un soldat, c'était comme si Rome lui parlait. Vous voyez, le centenier a son autorité au-dessus de lui, le tribun a son autorité au-dessus de lui, César. Et alors, quand le centenier s'adresse à son soldat, comme s'il parle sous l'autorité de l'empereur. Donc il y a un principe ici. Enfin, le centenier reconnaît implicitement, dans sa discussion avec Jésus, quand il explique ainsi, qu'il voit en Jésus aussi une relation comparable. En imaginant, par sa relation avec Dieu et son assujettissement à Dieu, en parlant de Jésus, quand Jésus parle, il ne parle pas de lui-même, mais c'est Dieu qui parle à travers lui. Et ça, c'est une application pour nous. Telle est la foi dont nous avons besoin. Elle s'appuie sur la parole de Jésus et reflète une vraie profondeur et reconnaît que lorsque Jésus parle, c'est Dieu qui nous parle. Donc ça, c'est la grande foi de cette personne, de reconnaître l'autorité par laquelle Jésus parle. Il parle sous l'autorité de son Père. Comme ce centenier, il parle, il donne des ordres sous l'autorité de ses chefs hiérarchiques. Regardons maintenant les quatre fois où le Seigneur parle des gens de petite foi. Et vous savez, il suffit de peu de choses, n'est-ce pas, que notre ciel s'assombrit. Vous le constatez vous-même dans votre propre vie. Et c'est ce qui s'est passé pour les disciples, à quatre reprises. Et le Seigneur décelait un certain manque de foi chez ses disciples. Donc je vous invite à regarder Matthieu chapitre 6. C'est le premier texte de Matthieu où Jésus reproche à ses disciples des gens de peu de foi. Regardez Matthieu chapitre 6, verset 26 et verset 30. Donc maintenant, c'est plus l'éloge, mais c'est le reproche. Matthieu 6, verset 26 et verset 30. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Nous sommes dans le discours de Jésus sur la montagne, au début de son ministère public. Et Jésus cite ici les oiseaux du ciel et les fleurs du champ comme exemple. Le contexte, c'est l'inquiétude. Quelle leçon Jésus donne à travers ces deux exemples? Remarquez bien quand vous voyez les oiseaux. Quelle leçon veut-il tirer pour enseigner à ses disciples? Ils disent que les oiseaux du ciel n'ont pas besoin de mettre des nourritures en réserve, car Dieu les nourrit. Vous voyez? Et imaginez les plantes, ici donc les fleurs dont il parle. Si Dieu habite les plantes qui ne sont pas ses enfants, à plus forte raison nous revêtera-t-il, nous qui sommes ses enfants? Et il dit que même Salomon, fils de David, le roi le plus fortuné des Juifs, n'a jamais été vêtu aussi admirablement qu'un lys. Ces deux exemples nous donnent une leçon pratique. Nous pouvons faire confiance à Dieu, faire confiance à sa sagesse, à sa bonté, à sa maîtrise providentielle sur toute chose. J'entends la prière de notre frère tout à l'heure, de remercier le Seigneur pour cette providence qui fait concourir les circonstances pour un but précis dans sa vie. Et même dans ce monde déchu et mauvais. Donc nous pouvons compter sur la provision de Dieu pour les croyants. Attention, le refus de compter sur lui révèle l'incrédulité de notre cœur. Avez-vous confiance dans la provision de Dieu pour tous les aspects de votre besoin chaque jour? Ça, c'est ce qui a été reproché à ses disciples parce qu'ils s'inquiétaient pour ce qu'ils vont manger, boire et se vêtir. Et Jésus donne cette leçon et ça, c'est pour nous aujourd'hui aussi. Nous pouvons faire confiance à Dieu, à sa sagesse, sa bonté, sa maîtrise providentielle sur toutes choses, son contrôle, même dans ce monde déchu et mauvais. Regardez le deuxième texte, où il va reprocher encore ses disciples de gens de peu de foi. Dans Matthieu, chapitre 8 maintenant, versets 23 à 27. Regardez Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. Verset 23. « Il monta dans la barque, parlons de Jésus, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. » C'est Jésus qui dormait. « Les disciples étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il eut un grand calme. Donc ici, les disciples se trouvaient dans une barque en pleine tempête avec le Seigneur qui, qu'est-ce qu'il fait? Il dormait. Et ils sont dans la mer de Galilée, et cette mer est située à 208 mètres au-dessous du niveau de la mer, et entourée par des montagnes, et donc connu pour être balayé par de brusques et violentes tempêtes. Donc le danger était si sérieux puisque le petit bateau commençait à prendre de l'eau et ces hommes, et pourtant aguerris et des pêcheurs professionnels pour la plupart, ont pris peur. Malgré la présence du Fils de Dieu parmi eux, ils avaient peur. La violence de la tempête était telle qu'ils étaient effrayés. Ainsi, il le réveille en disant, regardez verset 25 de Matthieu 8, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Avez-vous remarqué, d'un côté, les disciples qui paniquent, tellement en contraste avec le Seigneur Jésus qui dormait, qui montrait la sérénité de Jésus. Les disciples n'avaient jamais vu une telle tempête se transformer sur le champ en un calme parfait. Nous lisons, « Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. » Nous pouvons tirer un principe ici. Celui, en parlant de Jésus, qui peut faire cela, est capable de diriger toute chose en vue d'encourager la confiance et le reconfort que l'on peut avoir en lui, même au jour le plus orageux. Ainsi, en pleine tempête de la vie, nous pouvons vivre l'expérience du roi David qui disait en psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Voyez, c'est l'attitude que le Seigneur montrait face avec ses disciples dans cette barque où la tempête était là. Quelle leçon pour nous? Nous pouvons expérimenter la paix de Dieu qui ne dépend pas des circonstances. Philippiens 4, 7, Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ma question vers vous, faites-vous confiance à la présence du Sauveur dans le danger quand ça vient frapper à votre porte? La promesse faite à Moïse est aussi valable pour les disciples quand Dieu dit « Je serai avec toi ». Comme j'ai été avec Moïse et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Serrons ces promesses dans notre cœur. Face au danger, soyons rassurés et conscients de la présence de Dieu. Il n'est pas tangible qu'on peut toucher, mais il est réellement présent avec nous par son Saint-Esprit en nous. Regardez maintenant le troisième texte encore où Jésus va reprocher à nouveau les disciples de gens de peu de foi. Matthieu, tournez votre Bible maintenant en Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 32. On ne va pas tout lire, mais laissez-le ouvert parce que je veux prendre quelques versets. Matthieu 14, versets à 32. Vous pouvez le lire chez vous à tête reposée après. À cette occasion, nous voyons les disciples se trouver encore sur une mer déchaînée, n'est-ce pas? Et en danger. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils voient le Seigneur venant vers eux, marchant sur la mer. Et ils avaient peur, croyant voir un fantôme. C'est ce que nous lisons. Et qu'est-ce que fait Jésus? Jésus leur rassure en disant, regardez le verset 27, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Verset 27. Et encore, voilà l'apôtre Pierre. Pierre l'interpelle. Et nous lisons maintenant, regardez vos textes du verset 28 à 31. Pierre l'interpelle au verset 28. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et verset 29, il dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Au verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est dur d'avoir de tels reproches de la part du Seigneur. Oui, la leçon ici, c'est que dès que nous cédons à la tentation de focaliser notre regard sur les circonstances qui nous entourent, nous allons oublier si vite les promesses du Seigneur et nous commençons à couler sous les flots menaçants de l'existence et des épreuves. Je veux répéter, dès que nous cédons à la tentation de focaliser notre regard sur les circonstances qui nous entourent, nous allons vite oublier les promesses du Seigneur et nous commençons à couler sous les flots menaçants de l'existence. Oh, combien de fois on est obligé de nous poser nous-mêmes la question de Jésus qu'il pose à Pierre. Pourquoi as-tu douté? Oui, ça c'est le péché qui nous enveloppe si facilement, comme dit l'Épître aux Hébreux. Nous avons besoin de confesser notre incrédulité comme ce père qui s'adressait à Jésus, lui demandait de guérir son fils possédé par des esprits démoniaques. « Viens au secours de mon incrédulité. » Marc 9, 24. Oui, combien nous avons besoin de focaliser nos regards, non pas sur les circonstances, mais sur Jésus, celui qui est au contrôle, qui est souverain et qui contrôle toutes choses. Dernier texte, où Jésus reproche encore à nouveau aux disciples de gens de peu de foi. Regardez Matthieu 16, versets 5 à 8. Matthieu 16, versets 5 à 8. Et nous allons le lire. Verset 5. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des Sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris du pain. Jésus l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, Jean, de peu de foi, sous le fait que vous n'avez pas pris du pain ?» Vous voyez, reproche. « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, Jean, de peu de foi, sous le fait que vous n'avez pas pris du pain ?» Ici, nous voyons, dans ce passage, les disciples ont facilement oublié les expériences qu'ils ont vécues auparavant. Rappelez-vous, le Seigneur leur rappelle comment il les a envoyés. Nous pouvons lire dans Luc 22, 35. « Quand je vous ai envoyés, ils étaient sans bourse, sans sac, sans souliers. Avez-vous manqué de quelque chose ?» leur dit Jésus. Ils répondirent « De rien. » Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été dans le besoin. Et juste quelques temps auparavant, Jésus, ils étaient témoins oculaires des miracles quand ils multipliaient les pains pour nourrir des foules. Je vous fais référence à Matthieu 14, 17 à 19, ou Marc 6, 38 à 41. Mais quelle est la leçon que nous pouvons tirer ici? D'abord, je vois deux choses. Un avertissement. L'oubli des délivrances passées fait place au murmure et à l'incrédulité. Je répète, l'oubli des délivrances passées fait place au murmure et à l'incrédulité. Regardez 1 Corinthiens 10, versets 10 à 13. 1 Corinthiens 10, versets 10 à 13. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Écoutez bien ce principe. Verset 13. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est Dieu qui a le contrôle de l'épreuve par laquelle nous pouvons passer. Deuxième chose, je vois un encouragement. Vous savez, il y a beaucoup de titres qui ont été donnés à Dieu dans l'Ancien Testament. Et je voudrais juste vous en parler de un. Quand Abraham, rappelez-vous, Abraham offrait son fils Isaac en sacrifice pour Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où Abraham prend le couteau, allez, tuez son fils? Dieu lui a offert à la place de son fils un bélier. Et ensuite, Abraham a appelé le lieu Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Oui, l'Éternel pourvoit encore aujourd'hui dans les divers aspects et divers besoins de notre vie. Je voudrais dire ceci en terminant ce message. Êtes-vous des gens de peu de foi? Ou êtes-vous des gens de grande foi? Dieu veut nous voir grandir dans la foi, et ceci en cessant de nous focaliser sur les circonstances, mais de focaliser nos regards sur Jésus, sur sa puissance, sur sa souveraineté, sur son autorité. Et vous savez, le plan de Dieu pour faire grandir dans la foi passe par l'épreuve que nous venons de lire, par exemple dans 1 Corinthiens 10, passe par l'épreuve de notre foi. Je voudrais vous lire juste quelques passages parlant de cela. Verset 13, je veux relire. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et un autre passage dans Jacques, que nous avons lu ce matin. Mes frères, Jacques, chapitre 1, verset 2, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Et donc, ce que nous traversons aujourd'hui, ce n'est pas hors du contrôle de Dieu. Il sait d'avance ce qui allait se passer. Ne tremblons pas, ne vacillons pas, regardons et nos regards fixés sur Jésus, qui est le consommateur de la foi, celui qui bâtit son église.